France Info. 20h-21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Et bonsoir à vous toutes et à vous tous, les informés en mode bleu, blanc, rouge ce soir. Bien évidemment, on continue de suivre le retour des héros. Nous serons en direct tout au long de cette heure avec nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées, que les joueurs viennent de descendre il y a quelques minutes au Palais de l'Élysée, où ils sont actuellement dans la cour avec le couple présidentiel. Nous irons aussi au Crillon, où aura lieu la soirée de gala. C'est un célèbre palace parisien. Et puis évidemment, on va commenter, analyser cette victoire des Bleus, ses conséquences sportives, mais aussi politiques, économiques et même peut-être un peu de géopolitique. Après tout, ce mondial, c'était aussi celui de Vladimir Poutine. Avec nos invités du jour, Stéphane Bitton, rédacteur en chef du site foot123.fr et ancien rédacteur en chef de l'équipe. Bonsoir Stéphane Bitton.
Bonsoir.
Merci d'être là. Xavier Barret est aussi avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Également ancien de l'équipe et de France Foot et auteur de deux livres très récemment, les Coupes du Monde de football en 90 minutes chez Glénat, paru en mai dernier, et On refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait existé depuis le début, c'est chez Solar. Et vous montrez dans ce livre comment peut-être la phase de l'histoire des Coupes du Monde aurait été changée si la vidéo avait été là. En gros, c'est ça.
Oui, exactement, et il y aurait eu un palmarès totalement différent.
Et puis Sylvain Canet est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et géopolitiques et chroniqueur notamment sur le site d'information explicite. Avec vous donc, on va revenir sur ce parcours exceptionnel des Bleus, prévisible ou pas, vous nous le direz, sur le rôle de Didier Deschamps, la clé Deschamps pour piquer un titre au journal L'Équipe du jour. Vous nous direz aussi les uns les autres si vous pensez que la victoire des Bleus c'est aussi en France celle d'Emmanuel Macron. Cette dynamique, est-ce que ça peut rejaillir sur sa popularité? Et puis au-delà de nos frontières, ce mondial russe renforce-t-il Vladimir Poutine sur la scène internationale? Bref, on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire, alors on commence tout de suite. Et on va se replonger dans l'ambiance pour commencer. C'était il y a un peu plus de 24 heures en direct sur France Info depuis Moscou.
C'est terminé, on est champion du monde, on est sur le toit du monde, ici à Moscou, la France, championne du monde de football. Quel moment de bonheur, quel moment historique, quel moment fabuleux.
Voilà, Jacques Vendroux et ce qui lui est resté de corde vocale hier soir après cette victoire donc. 4 à 2, score final de cette étrange finale, le score qui ne reflète peut-être pas la physionomie du match. C'est vrai que l'histoire retiendra le résultat, on ne va pas bouder notre plaisir. Les Bleus sont champions du monde, c'est magnifique, c'est génial, ils ont gagné. Mais étaient-ils vraiment les meilleurs, Stéphane Mitton?
Oui, ils ont gagné, évidemment. En plus, ils ont eu un parcours quand même tout à fait remarquable, puisque, outre le premier tour, après il y a eu l'élimination, enfin ils ont éliminé l'Argentine, l'Uruguay, la Belgique, qui elle-même avait sorti le Brésil, et puis la Croatie pour finir, qui était probablement techniquement l'équipe la plus brillante. Donc parcours parfait, parcours d'un champion.
Même s'ils ont été secoués hier par les Croates.
Eh bien, ils ont été secoués, mais ils l'ont quand même emporté 4 à 2. Donc, et encore le deuxième but croate, bien sûr, est un cadeau fait par Hugo Lloris à Mandzukic. Donc, franchement, victoire méritée. L'histoire ne retient que les vainqueurs. Donc, la France a remporté sa deuxième Coupe du Monde.
Sylvain Kahn.
Le but cadeau, c'est un prêté pour un rendu, puisque le même Mandzukic avait effectivement fait cadeau à la France de l'ouverture du score. Ceci étant, on peut toujours gloser à l'infini sur quelle est l'équipe qui devrait gagner en fonction du beau jeu.
Non, mais on se souvient par exemple des propos de Courtois, le gardien belge,
oui,
un peu amer.
Ça faisait un peu mauvais perdant, ce qui est plutôt surprenant de la part de nos amis belges. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, si on met les choses en perspective, c'est que le fait qu'on parle de l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde en 2018 de cette façon, c'est un peu une revanche sur l'équipe de France de 1982 et de 1986. Celle dont on disait « Ah, c'est celle qui joue le plus beau football du tournoi, mais malheureusement, elle joue tellement bien qu'elle ne sait pas tenir un résultat et qu'elle ne se qualifie pas. » Donc,
êtes d'accord, Xavier Barret, avec ça?
Pas tout à fait. On disait effectivement, d'accord avec Sylvain Kahn, moins avec Stéphane Bitton, on disait effectivement de cette équipe de France des années 80 qu'elle était la championne du monde des matchs amicaux. Et effectivement, elle aurait mérité, d'ailleurs je le montre dans mon livre suivre, on refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait existé depuis le début, qu'en 1982 notamment, ils se font éliminer de façon tout à fait injuste en demi-finale par l'Allemagne. Il y a bien sûr l'agression de Battiston par Schumacher, mais il y a aussi d'autres éléments qui montrent que l'équipe de France aurait pu aller au bout et très vraisemblablement remporter cette compétition, puisque l'Italie, elle, n'aurait même pas dû passer le premier tour en raison d'un but injustement refusé au Cameroun. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'histoire des Coupes du Monde, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. En revanche, dans l'histoire du football, la meilleure équipe, contrairement, et là c'est là où je suis pas d'accord avec Stéphane Bitton, la meilleure équipe laisse une trace. Les Pays-Bas 74-78, surtout ce 74, n'ont pas gagné la Coupe du Monde.
Mais on en parle encore.
La Hongrie 54, le Brésil.
Et l'Autriche en 38.
on va refaire toute l'histoire des Coupes.
Mais il y a des équipes qui, sans gagner, ont laissé, ont marqué l'histoire du football. Donc, il faut avouer que cette équipe de France 2018, moi je suis très heureux.
Elle nous a surpris quand même, non ?
Mais absolument. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'inscrit à l'envers de la tendance de ces derniers temps. En 2010, c'est l'Espagne qui gagne et la Roja était la meilleure. En 2014, c'est l'Allemagne qui gagne au Brésil et l'Allemagne était la meilleure. Là, la France gagne à Moscou, on est très heureux, mais quelque part, elle n'a pas pratiqué un très beau football. C'est d'ailleurs les champions du monde qui est sacré avec le plus faible taux de possession du ballon, 34% seulement.
Ça sur la finale.
Mais je trouve que ça, c'est un syndrome franco-français. On a besoin de gagner, mais en plus d'être les meilleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde en 1990 à Rome, où l'Allemagne bat l'Argentine de Maradona sur un pénalty tout pourri de Bremer à 3 minutes de la fin. En Allemagne, on fête le titre. Comme
mais on ne dit pas qu'on ne le fête pas. Ma question, c'est de savoir effectivement.
Brésil remporte une de ses étoiles face à l'Italie au pénalty 0-0 en 94. Personne ne conteste la cinquième étoile, qui était la quatrième à l'époque.
Mais ce n'est pas ici qu'on contestera la deuxième. En quelques secondes, Sylvain Calme.
Oui, non, mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est effectivement que aujourd'hui, les Français supportent et vibrent pour une équipe qui a changé de style de jeu par rapport aux années 80, voire 90, et qui dit « ce qui compte, c'est de gagner ». Et s'il y a un changement, entre guillemets, dans la société française lié aux victoires, à cette deuxième victoire, c'est bien celui-là.
20h10, les informés se poursuivent bien sûr sur France Info. C'est juste après les titres, Emmanuel Grabé.
Une traînée bleu-blanc-rouge de la patrouille de France deux fois et un brouillard littéralement de fumigène pour accompagner le bus des Bleus le long des Champs-Élysées. Au son évidemment des cornes de brume et des applaudissements, des centaines de milliers de personnes étaient rassemblées depuis plusieurs heures pour apercevoir les champions du monde. Leur descente en triomphe aura duré un peu moins d'un quart d'heure. Ils sont désormais à l'Élysée où Emmanuel Macron donne une réception en leur honneur devant 3000 personnes. Les États-Unis saisissent ce soir l'Organisation mondiale du commerce contre l'Union européenne. Le Canada, la Chine, le Mexique et la Turquie. Washington proteste contre les hausses des tarifs douaniers décidés en représailles aux taxes imposées par Donald Trump sur l'aluminium et l'acier en provenance de ces pays et de l'Union européenne. Plus aucun département n'est ce soir en vigilance orange, mais de fortes intempéries sont en cours dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes notamment, où la soirée d'ouverture du Nice Jazz Festival a été annulée. Et puis, Yannick Jadot va conduire la liste d'Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes l'an prochain. Celui qui est déjà eurodéputé a été investi par plus de 58% des adhérents de son parti face à une liste menée par Michel Rivasi.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et on va poursuivre notre débat évidemment sur l'équipe de France de foot, cette victoire, cette deuxième étoile sur le maillot avec nos invités dans un instant. Mais on va d'abord prendre la direction de l'Élysée, puisqu'on vit évidemment en édition spéciale sur France Info le retour des héros, le triomphe. Grégoire Lecalot, vous êtes dans la cour de l'Élysée où les joueurs sont en train, je crois, de se livrer au jeu des photos, hein, c'est ça, avec leurs fans qui sont les invités de cette garden party.
Oui, alors effectivement, les joueurs sont à présent dans le palais de l'Élysée. La séance photo est terminée pour le moment. Et ils s'entretiennent avec le président de la République. Puis ils iront ensuite dans les jardins, dans là où se passent les garden parties de l'Élysée. Et Julie-Marie Lecomte, qui est en face de moi, va pouvoir vous en dire plus sur la question parce qu'elle connaît par cœur le programme de l'Élysée.
Alors, en fait, finalement... les joueurs se sont assez peu attardés en privé avec Emmanuel Macron. Il faut dire que ça faisait un bon moment hein, que tous les autres invités attendaient les champions dans les jardins, et les champions étaient très en retard. Alors finalement, ils sont allés très vite sur le perron, l'autre perron, celui auquel qui est de l'autre côté du palais de l'Élysée, dans les jardins. Mmh. Et Emmanuel Macron s'est adressé devant la foule aux joueurs, et voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit merci évidemment, merci d'avoir remporté cette coupe, merci de nous avoir d'avoir mouillé le maillot pour nous. Et il a ajouté, n'oubliez jamais d'où vous venez, en montrant la foule. Vous venez de là, des clubs qui vous ont formé, des éducateurs, des parents qui n'ont pas chômé pour que vous en soyez là. Et c'est cela, la France, souvenez-vous-en.
Merci Julie-Marie Lecomte, Grégoire Le Callot, les moyens techniques de Sandrine Malon, direct de l'Élysée. On poursuit ce débat avec mes invités dans les informés ce soir. Stéphane Bitton, rédacteur en chef du site foot123.fr. Xavier Barré, auteur notamment de « On refait la Coupe du Monde » à propos de l'arbitrage vidéo. Et Sylvain Kahn, spécialiste de géopolitique, professeur à Sciences Po. Alors, on disait tout à l'heure, finalement, ce débat, c'est la meilleure équipe qui a gagné ou pas. Passons à autre chose. Le succès là-dessus de Deschamps, vous le qualifieriez comment ? Qu'est-ce qui a fait que cette mayonnaise a pris, selon vous ?
C'est son succès. Parce que les joueurs de l'équipe de France, il fallait faire des choix, il fallait composer un groupe, il fallait composer une équipe type, faire passer le message aux remplaçants qui peut-être y joueraient pas. Et il a réussi à composer ce groupe de façon équilibrée, à mettre en place une stratégie effectivement pas flamboyante sur le terrain, mais gagnante. Et c'est lui qui a encaissé pendant tous ces mois les critiques, et il en a eu de très durs. C'est lui qui a encaisser aussi le doute. Je pense que autour de lui, il y a des gens qui étaient peut-être sceptiques, mais lui, il a toujours resté fidèle à sa ligne. Il a déjà gagné, il a cette expérience, ce vécu qui lui donne cette autorité naturelle.
Est-ce qu'il y a un peu de chance quand même, Stéphane Bitton, j'en reviens.
Il faut toujours de la chance. Mais je suis d'accord avec Xavier, c'est son succès. Ouais. Rappelons-nous quand même des critiques après le France-Danemark, le dernier match de la poule, même s'il avait fait jouer ce qu'on appelle les coiffeurs.
On s'était ennuyé,
on parlait de purge, et là, il y a peu de gens qui pensaient que la France pouvait aller au bout de cette compétition. Donc c'est toute la réussite de Deschamps. C'est sa façon aussi de gérer le groupe, de passer le message. Il a le vécu, il a l'expérience. Il n'y a qu'à voir le comportement de l'équipe de France hier soir en deuxième partie de match. C'est-à-dire que le début est catastrophique, ils sont à la ramasse complète. Et puis, il y a ce message qui passe. Dur, hein. Ça m'a rappelé un peu l'époque Hidalgo, où les Français étaient souvent pas très bons en première période. Et puis, il avait les mots pour lancer son équipe, et la France faisait souvent la différence en deuxième période, et c'est un peu ce qui s'est passé cette année en Russie pour la France.
Avec cette petite part de chance quand même, notamment sur ce pénalty qui est sifflé.
Elle est indispensable,
mais ce pénalty qui est sifflé après la vidéo, Sylvain Kahn, vous êtes d'accord avec moi, on bascule un peu quand même. À un moment donné, il faut de la chance pour faire basculer.
Moi je pense qu'il y a pénalty, si vous me demandez mon avis, mais là je pense qu'il peut y avoir autant d'avis qu'il y a de téléspectateurs.
C'est très intéressant d'ailleurs.
Il y avait 1 milliard de téléspectateurs, voilà. Non, moi, ce que je voudrais dire par rapport à votre question précédente sur Deschamps, je ne vais pas me prononcer, disons, sur l'entraîneur ou sur le coach, parce que je suis entouré de gens bien plus qualifiés que moi sur ce sujet. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est un hasard, certes, mais c'est un hasard intéressant. C'est, l'espèce de miroir qu'on peut établir entre l'élection de Macron et ce que représente Emmanuel Macron en politique, dans la France d'aujourd'hui d'une part, et le style de Deschamps. C'est-à-dire que on a, dans les deux cas, des leaders qui insistent énormément sur le fait que ce qui est très important, c'est de gagner, sur le fait que ce qui est très important, c'est un collectif, et ça, ça a été rappelé à l'instant, Deschamps, probablement davantage que les deux sélectionneurs qui l'ont précédé, a été capable, avec des individualités extrêmement fortes, des grands égos et des gens de générations très diverses, de faire en sorte que tout le monde joue collectif. Et néanmoins, ce qu'on trouve, me semble-t-il, là aussi c'est un hasard certes, mais c'est un miroir intéressant, le fait que pour Deschamps, ce qui est très important, c'est que dans ce collectif, il y a des premiers de cordée. Et l'équipe de France, dans une certaine mesure, on l'a entendu à satiété de la part du sélectionneur comme des joueurs, c'est, disons, la locomotive du football français. De la même, quand je dis de la même manière, encore une fois, c'est un hasard, c'est pas fait exprès, mais c'est ça que je trouve intéressant comme coïncidence. De la même manière que Emmanuel Macron, en ayant été élu, et depuis qu'il est élu, ne cesse de dire, il y a une Maison France, et cette Maison France, elle doit être tirée par les meilleurs, et tout le monde peut en bénéficier. Voilà. Et je trouve que, de manière certes, c'est une coïncidence, oui, c'est pas du tout fait exprès, mais il y a une correspondance.
C'est intéressant, on parlera d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, des éventuels marrons du feu que pourrait tirer Emmanuel Macron de ce succès, c'est autre chose. Xavier Barret, oui, pari de la jeunesse aussi.
Bien sûr, le pari de la jeunesse, ça c'est très important, parce que, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, il peut pas faire une sélection, il est obligé de prendre tous les Français tels qu'ils sont. Alors que Didier Deschamps, ce qui est important dans cette équipe, c'est qu'il a quand même mis de côté des joueurs dont il n'a pas voulu à un moment donné. On pense à Benzema, bien sûr, mais il y a aussi le cas de Rabiot, par exemple, plus récemment. Et il avait fait la même chose quand il était joueur. L'équipe de France 98, il était capitaine. Il avait poussé vers la sortie et Cantona et Ginola, qui lui en veut encore, d'ailleurs. Et donc, pour faire une équipe, pour qu'elle soit compétitive, il ne faut pas seulement faire la sélection des meilleurs. Il faut jouer sur les complémentarités. Il l'a très bien fait. Il n'a pas hésité, vous le disiez, Nicolas, à lancer des jeunes. Effectivement, cette équipe de France, c'était, avec l'Angleterre, Nigeria mis à part, la plus jeune sélection des 23 de cette Coupe du Monde. Ils avaient 26 ans de moyenne d'âge. C'était un pari qu'il a gagné. Je pense que l'arbitrage vidéo y est aussi pour quelque chose. Parce que les vieux roublards, les vieux défenseurs qui, à l'expérience, faisaient des fautes, ne peuvent plus les faire. Et donc, la prime à la jeunesse, à la vitesse notamment, eh bien, a pu s'exprimer sur cette Coupe du Monde.
La vidéo jusque dans les joueurs sélectionnés, dit Xavier Barret. Stéphane.
Oui, non, mais je pense que, en fait, je crois aussi que la force de cette équipe de France, c'était de ne pas avoir de leader, vraiment. C'est-à-dire qu'on a connu la France de Platini, voire même, on peut remonter plus loin, de Raymond Coppa, celle de Zinedine Zidane. Et là, en 2018, la France est arrivée avec une multitude de leaders. Tous étaient susceptibles d'eux. Et finalement, je pense que ça a été la force de cette équipe.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait la France de Platini, la France de Zidane,
voilà,
ça, clairement.
C'est peut-être pour ça aussi
qu'on
reproche.
Et là, c'est la France
reproche.
De qui,
voilà.
C'est la France de qui,
la France de Deschamps. C'est la France de Deschamps.
C'est la France
c'est
de
ça
Deschamps.
Qui est très intéressant.
Oui, mais hier soir, les premiers mots du sélectionneur, c'est dit, c'est pas moi qui gagne.
Bien sûr,
oui,
évidemment.
Mais ça,
il ne peut pas dire autre chose.
Évidemment, mais
il peut pas dire autre chose.
C'est toute
mais
son humilité.
Ce qui est très intéressant, c'est justement que, encore une fois, que ça soit le fruit d'une intention ou que ça soit un peu le fruit pour partie du hasard, on a aujourd'hui une équipe de France championne du monde qui, comme ça vient d'être dit, n'est pas identifié à un leader sur le terrain, mais dont tout le monde le dit. Il n'y a qu'à regarder toutes les unes de la presse et tous les articles depuis une semaine qui dit bah, finalement, c'est à Deschamps, c'est à l'entraîneur qu'on doit cette victoire. Et ça, me semble-t-il, on le dit beaucoup plus que pour la France 98 d'Aimé Jacquet ou même pour la génération Platini où pourtant Hidalgo, ça a été rappelé tout à l'heure, était considéré comme un homme très important. Et donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant dans la France d'aujourd'hui où on sent quand même, sondage après sondage, qu'il y a une espèce d'envie, ça a pu être dit, soit d'autorité, soit de leadership. Bah là, du coup, c'est l'entraîneur qui s'impose.
C'est l'entraîneur qui s'impose. On reparle de Didier Deschamps dans quelques minutes dans Les Informés sur France Info. Il est 20h20, l'heure du rappel de l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
Après une parade d'un peu plus de 10 minutes sur les Champs-Élysées, les champions du monde sont désormais à l'Élysée. 3000 personnes ont été invitées par Emmanuel Macron pour cette cérémonie. Beaucoup de sportifs, évidemment, et des jeunes surtout, notamment les joueurs des clubs où ont été formés les Bleus, comme celui de Bondy, d'où est originaire Kylian Mbappé. Les 23 et le sélectionneur Didier Deschamps ont entonné une Marseillaise improvisée avec le président et son épouse sur le perron de l'Élysée à leur arrivée. L'association des maires de France demande ce soir à l'État la mise en place en urgence d'un fonds spécial pour les 3500 communes qui connaissent le plus de difficultés financières. L'AMF dénonce la baisse des dotations de l'État, trop rapide, trop importante. Cela met en jeu, selon elle, l'avenir des communes rurales. Et puis, après sa rencontre cet après-midi avec Vladimir Poutine, Donald Trump critiqué aux États-Unis par des parlementaires, y compris de son propre camp. Il lui reproche de ne pas avoir défendu les intérêts américains face au président russe. Trump doit réaliser que la Russie n'est pas notre allié, dit ce soir le chef des Républicains au Congrès.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Les informés qui parlent football ce soir sur France Info avec mes confrères Stéphane Bitton, rédacteur en chef du site foot123.fr, Xavier Barret, auteur de deux livres sur la Coupe du Monde paru récemment, les Coupes du Monde de football en 90 minutes chez Glénat, célèbre maison grenobloise, et on refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait existé depuis le début chez Solar. Et Sylvain Kahn qui est également avec nous, spécialiste de géopolitique et professeur à Sciences Po. On parlait de Didier Deschamps avant le rappel des titres. C'est quand même la troisième personne au monde à gagner la Coupe du Monde à la fois comme joueur puis comme sélectionneur. Il faut rappeler qu'il était capitaine de l'OM en 93.
C'est ça, en fait.
Monsieur gagne tout.
Mais monsieur gagne tout et monsieur Comme monsieur a tout gagné, monsieur a un discours qui passe très bien auprès des jeunes. Regardez comment Zidane a réussi au Real Madrid, avec des fortes personnalités, mais son passé lui a valu tout de suite d'être du sérail. Mm-hmm. Et je crois que Didier Deschamps, c'est la même chose. La nouvelle génération, la génération Pogba, Mbappé, Pavard et tous les autres, a besoin de guides qui ont une expérience, une réussite, qui eux-mêmes ont vécu la même situation, ont été des joueurs de qualité et ont remporté des trophées. Moi, si je suis un joueur et que Didier Deschamps me dit « il faut faire ça pour gagner », eh bien je suis Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, vous l'avez dit, il a gagné la Ligue des Champions comme joueur, il a gagné la Coupe du Monde, l'Euro, bref.
Ça marche même chez Mbappé qui n'était pas né à cette époque-là. Ah
ben surtout, je pense.
Ouais. Surtout auprès des jeunes, effectivement, qui sont très doués, qui ont déjà beaucoup d'argent et qui se disent qu'est-ce que ça peut leur apporter. Mmh. Effectivement, on l'a très bien vu au Real Madrid, Stéphane Bitton faisait allusion au cas de Zizou. Cristiano Ronaldo, il respecte Zidane parce que Zidane a été ballon d'or, oui. Parce que Zidane a gagné la Coupe du Monde. Exactement. Donc, il y a un respect spontané, naturel qui s'inscrit. Mais attention, ça ne fait pas tout.
Est-ce qu'il voilà. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il éteint toutes les polémiques, du coup, selon vous? Parce que, rappelons-nous, si on remonte un mois, un mois et demi, Zidane, le Real remporte la Ligue des Champions. Benzema marque. Benzema marque. Et puis Zidane démissionne et on se dit il attend que Deschamps se plante pour prendre la sélection. C'est un peu ça qu'on entendait. Stéphane,
ouais, je pense que c'était des supputations. C'était allé un peu vite. D'abord, je pense que Zinedine Zidane avait envie de souffler déjà parce que je pense que la pression a été énorme. Il a réussi quelque chose de fabuleux que personne n'avait fait, remporter 3 Ligues des Champions consécutives avec le même club. Donc c'était énorme et je pense qu'il avait envie de souffler. Donc moi j'ai beaucoup entendu Zidane va succéder à Didier Deschamps. Je reste persuadé que si Didier Deschamps s'était arrêté hier soir, c'est pas Zinedine Zidane qui aurait pris le poste de sélectionneur. Un peu plus tard, il le prendra, il a rendez-vous avec l'équipe de France, mais je pense qu'il a rendez-vous un petit peu plus tard.
Un petit peu plus tard, c'est trop tôt. Xavier Barré, puis après Sylvain.
Oui, pour revenir à ce que je disais, la notoriété ne suffit pas.
Oui. Il faut le palmarès
ne suffit pas, parce que sinon, il y avait 22 champions du monde en 1998. Tous ne sont pas entraîneurs, il y en a même qui ne sont plus dans le football. Donc, il faut aussi de la compétence derrière. Mm-hmm. Et cette compétence, Didier Deschamps, il l'a acquis très tôt, parce qu'à peine il a raccroché les crampons, il a enchaîné comme entraîneur à Monaco, il a amené l'AS Monaco en finale de la Ligue des Champions en 2004, contre le Porto de José Mourinho. Derrière, il a fait remonter la Juventus qui avait été reléguée administrativement en deuxième division italienne. Ensuite, il a pris l'OM. Il en a refait un champion de France alors que l'OM ne l'avait plus été depuis pratiquement 20 ans. Donc, c'est quelqu'un qui bosse et qui, par son travail, démontre ses compétences. Donc, il y a effectivement ce respect naturel qui s'impose d'abord. Et ensuite, derrière, il y a tout son travail. Et il est colossal, il est énorme, qui fait qu'il obtient des résultats.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Sylvain Kahn? Alors là, on a un débat entre les sportifs. On prend un tout petit peu de recul avec vous qui êtes spécialiste de géopolitique, cette autorité, ce charisme naturel du vainqueur, celui qui gagne tout.
Celui qui gagne tout, attention, disons, en tant que... Moi, mon métier, c'est les sciences humaines et sociales. Alors là, on est déjà en train de construire un mythe en sciences humaines et sociales. Nous, ce qu'on passe notre temps à faire, c'est à déconstruire les mythes. C'est-à-dire pour dire, dans les mythes, qu'est-ce qui relève de la réalité et qu'est-ce qui relève, on va dire, du discours qui embellit la réalité. Et là, c'est très intéressant, puisque même nous, là, tout de suite, en ce moment, on est déjà en train de le faire.
On en a envie. Hein.
Mais je ne dis pas le contraire. Moi aussi, j'en ai envie. J'étais sur les champs hier, je veux dire...
C'est une forme de constat aussi.
Alors oui, c'est-à-dire, encore une fois, quand on construit un mythe, on ne le construit jamais à partir de rien. Mais il ne faut pas oublier que Deschamps, il a aussi connu des échecs. Je veux dire, il y en a un, c'était il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 ans, rappelez-vous, l'équipe de France
perd. Il était au moins allé jusqu'à la finale.
C'était vécu en tous les cas comme une déception.
Parce que ça se passait chez lui.
C'était l'Euro organisé par la France et que, de ce point de vue-là, on avait déjà fait aussi bien, puisque en 1984, l'équipe de France avait remporté l'Euro organisé en France, et puis qu'ensuite Deschamps, comme capitaine, était le capitaine de l'équipe de France qui avait gagné l'Euro en 2000. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si on dit Didier Deschamps est un vainqueur, c'est la gagne, et donc tout son parcours le montre, à ce moment-là, il faut juger tout le parcours de Deschamps et à l'aune de cela.
Alors là, vous cassez tout, parce que Robert Herbin, par exemple, qui a eu une réussite. Herbin a magnifiquement réussi avec Saint-Etienne.
Moi, je suis un grand supporter des Verts, encore aujourd'hui.
Et puis, il est allé traîner du côté du Red Star ou de Lyon, je crois, et ça s'est beaucoup moins bien passé.
Oui, parce que Disons, ce que je peux ajouter aussi, toujours encore une fois, parce que je pratique l'art du contre-pied ici.
C'est, mais hein, c'est un peu pour ça logique. Qu'on vous a invité,
voilà,
c'est logique.
C'est que, tout grand homme, comme disait Hegel, s'inscrit forcément dans une structure ou dans un contexte. C'est-à-dire que Deschamps, bien entendu, sa réussite est éclatante, mais en même temps, sa réussite, de deux choses l'une, soit elle traduit un certain nombre d'éléments de structure, hein, qui permettent à Deschamps d'être l'homme de la situation au bon endroit, au bon moment, soit, effectivement, il bénéficie d'éléments de structure. Alors là, ici, on pourrait invoquer le système de formation français qui est un des meilleurs du monde, dont tous les entraîneurs ne bénéficient pas à chaque Coupe du Monde, mais quand même, ça aide énormément. Il bénéficie du fait qu'il a une génération dorée, avec de très très bons joueurs. Il ne les a pas formés lui-même, simplement, il sait faire monter la mayonnaise.
Vous voyez, il a réussi à faire monter la mayonnaise.
Et c'est indispensable, c'est très important. Sans ça, voilà, ce que je veux dire, c'est que Deschamps est une condition nécessaire, mais non suffisante, de la victoire des Bleus.
On va poursuivre cette émission spéciale Désinformé en bleu, blanc, rouge dans quelques instants sur France Info. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 21h et on verra dans la deuxième partie de cette émission si Emmanuel Macron peut trouver bénéfice politiquement. Est-ce que la France économiquement aussi peut-être se porter mieux avec cette victoire des Bleus? On ira aussi faire un tour en Russie. A tout de suite.
La route des vacances, c'est sympa. Jusqu'au moment où il faut décider où s'arrêter pour la pause. Monsieur veut son smoothie coco, le petit réclame une balançoire depuis 200 km, et moi, je ne repars pas sans ma salade au saumon. Mais cette année, grâce à l'application Ulysse, je peux trouver l'aire d'autoroute qui comblera nos exigences les plus folles. Avec Ulysse, Vinci Autoroute réinvente le télépéage et vous simplifie la route des vacances avec toute une gamme de services. Découvrez-les vite sur ulysse.com ou téléchargez l'application Ulysse. Vinci Autoroute, bien arrivé.
France Info Météo, avec CIC et vous, pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et quel temps pour ces prochaines heures, Élodie Calac?
Les orages se décalent vers l'est. Ce soir, on retrouve progressivement un temps calme. Demain, le sud-ouest se réveillera sous les nuages. Ça s'arrangera nettement l'après-midi, retour de bons moments de soleil. Le sud-est, lui, profitera du soleil avec du vent jusqu'à 70 km à l'heure. On ne sera pas à l'abri d'une averse sur la Corse dans l'après-midi. Partout ailleurs, ce sera variable. Entre soleil et passage nuageux, parfois une rare averse, peut-être un peu plus nombreuse sur le flanc est l'après-midi avec en prime de l'orage en montagne. Il fera souvent 13 à 18 degrés le matin, 19 à 22 pour le sud-est. L'après-midi, 21 degrés à Cherbourg, 25 à Lille et à Nantes, 27 degrés à Paris, Bordeaux, 31 à Nancy, à Lyon, 34 à Marseille et on ira jusqu'à 35 à Nîmes.
Merci beaucoup Élodie Calac, belle soirée. Vous écoutez France Info, vous avez bien raison, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info Emmanuel Langlois.
Les héros de retour en France, en chair et en or. Au lendemain de la fête à Moscou, la bande à Griezmann est à l'Elysée. Ce soir, invité par le couple Macron, au milieu d'un millier de jeunes footballeurs, 3000 personnes au total, selfie et karaoké au programme dans les jardins de l'Elysée. En clair, hein, Cécile Arbona, les Bleus ont pris le pouvoir là-bas.
Ah oui, c'est surtout Paul Pogba hein, qui se charge de mettre l'ambiance. Il a pris le pouvoir en prenant le micro après une courte prise de parole du président Emmanuel Macron. Le président qui a remercié de plusieurs manières les Bleus. Merci de nous avoir rendus fiers. Merci d'avoir mouillé le maillot. Merci d'avoir réuni le pays. Et puis il s'est adressé avec un clin d'œil à Didier Deschamps en disant « Ne changez surtout pas cette équipe ». Et puis alors Paul Pogba, lunettes bleutées sur le nez, a pris le contrôle de la soirée. Il s'est livré un véritable numéro, un one-man show, en mettant l'ambiance, effectivement, en faisant chanter le public, en s'adressant aussi à des jeunes qu'il voyait dans la foule, en disant « Tiens, toi, je te connais, je te reconnais, tu te souviens de moi ?» Enfin, les gamins étaient médusés, très fiers aussi d'être reconnus par Monsieur Pogba. Et puis ensuite, il a fait venir notamment N'Golo Kanté à côté de lui, le si discret N'Golo Kanté. Et puis, Paul Pogba a demandé à toute la foule de chanter la fameuse chanson de supporters, hein, l'ode à N'Golo Kanté sur l'air de Joe Dassin, les Champs-Élysées. N'Golo Kanté, il est petit, il est gentil. Emmanuel Macron était très amusé par cet agent d'ambiance. Didier Deschamps, un peu gêné, il faut l'avouer. Et là, donc, on continue de boire et de festoyer dans les jardins de l'Élysée.
Merci Cécilia Arbona, restez sobre tout de même. Auparavant, les joueurs, au pas de charge, ont descendu les Champs-Élysées sur un bus à impérial en un quart d'heure chrono, comme l'ont fait leurs aînés il y a 20 ans tout juste. juste. Sauf qu'à l'époque, ils avaient mis 4 heures à descendre la plus belle avenue du monde, devant, comme aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes survolées par les appareils de la patrouille de France qui ont dessiné dans le ciel un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est la meilleure audience de l'année, d'ailleurs, toutes chaînes confondues. 19 300 000 téléspectateurs ont suivi hier sur TF1 la finale du mondial, d'après Médiamétrie. Un score qui ne bat toutefois pas les records engrangés par la Une lors de précédentes compétitions sportives. Dans le reste de l'actualité, alerte orange levée partout en France. Elle concernait encore 8 départements du sud-ouest, ainsi que les Bouches-du-Rhône et le Var. Les orages se déplacent maintenant vers les Alpes-Maritimes. D'ailleurs, à Nice, la soirée d'ouverture du festival de jazz a été annulée en raison de ces intempéries. Et puis un mot de politique, Yannick Jadot mènera la liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes de l'an prochain. L'eurodéputé a été choisi par plus de 58% des suffrages des adhérents du Parti écologiste. Il est 20h33.
Et c'était Emmanuel Langlois.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et on est de retour pour la deuxième partie de cette émission sur France Info avec nos invités du soir, nos informés du soir, Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po, chroniqueur notamment au site Internet Explicite, mes confrères Stéphane Bitton, rédacteur en chef du site foot123.fr et Xavier Barré, auteur notamment de « On refait la Coupe du Monde », si l'arbitrage vidéo avait existé depuis le début. On a beaucoup parlé de l'analyse footballistique et du charisme de Didier Deschamps dans la première partie de l'émission. Sortons un petit peu de cette analyse purement sportive. La Coupe du Monde, ça parle à tout le monde, ça rayonne au-delà d'une simple compétition, fût-elle la plus prestigieuse. Vous avez peut-être vu, vous avez sûrement vu cette photo qui circule sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron debout dans sa loge, les deux poings levés au moment de l'ouverture du score pour les Bleus. C'est d'ailleurs le but de Mandzukic contre son camp, alors que les autres qui étaient avec lui restent assis et stoïque. Macron, c'est tout bénef pour lui, si on veut parler crûment. Stéphane Mitton.
Je pense que de toute façon, à défaut de tout bénef, c'est toujours bien d'associer son image à la victoire et à la victoire de la France, évidemment, mais ça ne rendra pas la tranquillité à Emmanuel Macron pour les mois et les années qui viennent, évidemment. Et même si la France conservait son titre dans 4 ans, rien ne dit que ce serait bénéfique pour Emmanuel Macron, mais je crois que l'élection
aura lieu après, voilà, oui, juste après.
Mais voilà, non, je pense que c'est bien, c'est toujours bien d'être associé à ça. Maintenant, on l'a, d'expérience, on l'a vu, j'ai le privilège de l'âge pour l'avoir vécu en 98, ça n'a pas rendu la vie beaucoup plus belle à Jacques Chirac à l'époque. Certes, il y a eu une sorte d'euphorie qui a duré, allez, on va dire, 2-3 mois maximum.
En fait, il faut mettre la Coupe du Monde à 3 mois de la présidentielle pour que ça marche.
C'est quasiment l'effet d'une élection, quoi. C'est, vous avez 100 jours pour surfer un petit peu là-dessus, et puis après, ça se complique.
Ce qui est intéressant avec ce dont nous parlons là, c'est comme très souvent en politique, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, disons, prend son risque, comme il dit souvent. Mmh. C'est-à-dire, après tout, il se montre énormément. Il a commencé, rappelons-nous-en, à Clairefontaine, c'est-à-dire avant que les Bleus ne partent en Russie, en leur donnant quasiment une feuille de route, hein, en leur disant « je viendrai vous voir
en
si vous atteignez les demi-finales ».
Attention, bon, hein.
Attention. Mmh. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, il prend... Il se positionne. Après tout, il aurait pu dire « Moi, quoi que vous fassiez, je vous aime, je vous soutiens, vous êtes les Bleus, vous représentez la France, voilà. » Non. Donc, il se positionne d'une certaine façon, sans qu'on puisse savoir, et peut-être qu'il a fait faire des enquêtes par ses communicants, mais sans qu'il puisse avoir de certitude sur ce positionnement qu'il adopte avant même que les Bleus arrivent en Russie, va-t-il être un positionnement populaire ou correspondre à la majorité de l'opinion? Et là, c'est ce qu'il continue à faire, si vous voulez.
Là, on l'a vu chanter la Marseillaise dans la cour de l'Élysée.
Ce que vous rappeliez les uns et les autres tout à l'heure sur le fait que sur le premier but, sur l'ouverture du score par les Bleus, il se comporte, on va dire, de manière extrêmement démonstrative.
Presque, c'est presque en ultra.
Non, mais, c'est un passionné de foot. Les trois derniers présidents de la République française étaient des passionnés de foot.
C'est-à-dire, voilà, donc là, par exemple, ce que Stéphane Guitton nous dit, c'est que Emmanuel Macron fait le pari de la sincérité. Mmh. Voilà. Les Français savent que je suis un passionné de foot, donc ils vont trouver logique, légitime, naturel...
En tout cas, pas choquant.
Voilà, et que je me comporte comme un supporter lambda. Mais après tout, il y a peut-être des gens qui trouvent que un président de la République n'a pas à se comporter comme ça. Moi, j'en sais rien, si vous voulez.
Oui, mais c'est intéressant comme débat.
Donc, en clair, là, Emmanuel Macron, si vous voulez, comme on dit souvent sur France Info, tout est politique.
Hein. Oui, effectivement.
Emmanuel Macron adopte une attitude, il choisit un style, il fait passer des messages, c'est comme ça qu'il... Parce que quoi que fasse Emmanuel Macron, il est toujours le chef de l'État de la France. Il représente la France, il l'incarne. Donc, est-ce que la manière dont il accueille les Bleus, ça va plaire à une majorité de Français? Il est trop tôt pour le savoir.
J'ai cru comprendre que de toute façon, il avait demandé à ses conseillers de travailler sur la façon dont on pouvait exploiter, le terme est peut-être un peu fort, mais cette
cultiver,
Coupe du Monde, et surtout... Voilà,
cultiver dans la durée.
Exactement. Mais c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup depuis qu'il est président. Souvenez-vous de l'enterrement de Johnny Hallyday. Comment il a mis ça en scène, il est allé faire un ode funèbre. Voilà, donc il est très bon communicant, c'est un très fin politique malgré son jeune âge. Et donc effectivement, la Coupe du Monde, c'est un événement extrêmement porteur, extrêmement populaire. Mmh. Et quelque part, c'est des événements qu'il choisit d'autant plus qu'on lui reproche par ailleurs, d'un point de vue politique, justement, de se détacher un peu trop de la base populaire. Du peuple français.
Il joue de sa jeunesse.
C'est le Kylian Mbappé de la politique.
Voilà, c'est ça. Pour mettre en valeur, il dit l'équipe de France est très jeune, c'est un pari. Même Deschamps est jeune, c'est un jeune entraîneur, 49 ans. Lui, c'est un très jeune président. Il y a des très jeunes superstars et super joueurs comme Mbappé. Et donc, Macron décide finalement de jouer cette carte-là.
Mais il faudra quand même essayer de faire durer ça au-delà. Parce que là, il va y avoir le mois d'août, tout le monde va s'endormir. Et en septembre, il y aura quand même les réformes des retraites, les réformes sociales.
C'est bien pour ça.
Demain matin, je crois qu'il a une réunion de deux heures à l'Élysée avec les partenaires sociaux. Ouais. Donc,
personne n'est dupe. On a juste oublié la grève de la SNCF. J'avoue que pendant quelques temps, là, depuis à peu près deux semaines, on en a moins parlé ou plus parlé et qu'effectivement.
En même temps, elle s'est presque arrêtée.
Elle s'est presque arrêtée naturellement.
C'est le bon moment pour les syndicats pour arrêter la grève sur la pointe des pieds sans avoir à concéder une défaite.
Une grève où on n'aurait pas.
Personne ne s'en rend compte.
Ça se termine tout doucement. Voilà. Ça va être endormi par la chair. Mais quand même, sur le plan politique, on voit bien qu'Emmanuel Macron va tout faire pour essayer de faire prolonger cet effet. C'est une France qui gagne, c'est une France qui sourit. On a connu des attentats, on a connu du chômage de masse.
C'est une France fraternelle. C'est ça qui est très important. Alors, Emmanuel Macron va-t-il réussir à incarner cette fraternité, si vous voulez, à faire en sorte que cette fraternité qui existe depuis une semaine et singulièrement ces trois derniers jours, il en apparaisse non pas tant comme le bénéficiaire, mais comme soit le garant, soit la figure et le visage, à mon avis, c'est tout le pari. Parce que c'est vrai que, quand même, depuis 3-4 ans, la France, sur des tas de plans différents et pour des tas de raisons, est divisée. Il y a des lignes de front, elle est meurtrie, les attentats de 2015, les attentats de 2016. Là, c'est très très intéressant de voir. On a une espèce de manif « Nous sommes tous Charlie », qui est à la fois... encore beaucoup plus populaire, il y a beaucoup plus de gens.
Nous sommes tous des champs, nous sommes tous bleus, quoi.
Oui, c'est ça. Il y a autant de drapeaux français qu'au moment des manifs, nous sommes Charlie, sauf que là, c'est un patriotisme positif. On peut dire, c'est génial d'être français. Alors qu'en 2015, on était blessés et on disait, la France blessée ne se laissera pas abattre. Hein, donc et Macron essaye évidemment d'incarner cela. Est-ce qu'il y arrivera? Réponse aux prochaines élections.
En tout cas, on continue d'en parler dans quelques instants, juste après l'info, l'essentiel, Emmanuel Grabé à 20h40.
Et tout le secteur des Champs-Élysées toujours interdit à la circulation ce soir. Les stations de métro aussi sont fermées. Des centaines de milliers de personnes se sont réunies dans l'ouest de la capitale pour célébrer les champions du monde. L'équipe de France a descendu l'avenue en moins d'un quart d'heure avec plus de deux heures de retard sur l'horaire prévu. Leur bus a été acclamé tout le long du parcours entre l'aéroport de Roissy où ils ont atterri de Moscou cet après-midi et la place de l'Étoile, point de départ de leur parade. La station de métro d'ailleurs, Charles de Gaulle Étoile, a été renommée temporairement. On a deux étoiles par la RATP, comme cinq autres stations du réseau. Bercy les Bleus, Victor Hugo Yoris ou encore Deschamps-Élysée, Clémenceau. Les 23 sont désormais à l'Élysée. Une réception en leur honneur a été organisée par le président Emmanuel Macron avec plus de 3000 invités. Et puis sur le Tour de France, Alexis Vuillermoz abandonne le coéquipier de Romain Bardet chez AG2R, victime d'une fracture à la clavicule hier sur les pavés de la 9e étape. Arras-Roubaix, c'est le deuxième abandon dans cette équipe après celui d'Axel Domon sur la 4e étape.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et les festivités se poursuivent en ce moment même à Paris en l'honneur des Bleus de retour de leur épopée victorieuse en Russie. On retrouve, avant de reprendre notre débat dans les informés sur Emmanuel Macron, on retrouve justement Grégoire Le Callot à l'Élysée où le président de la République reçoit les 23 héros et le staff.
Il les reçoit effectivement dans le jardin et petit à petit, les invités commencent à quitter la cérémonie. Quelques ministres comme Sébastien Lecornu qui est venu nous voir tout à l'heure pour nous dire à quel point il était admiratif des Bleus. Pourtant, lui-même avouait ne pas être fan de football, mais il avait été très impressionné, très fier également des valeurs qu'avaient portées les Bleus. C'est ce qu'a dit le président de la République. Merci d'avoir mouillé le maillot. Merci d'avoir remporté cette coupe. Ce sont les mots qu'il a dit aux joueurs avant de se faire embarquer par la foule qui était dans ces jardins de l'Élysée, puisque plus d'un millier de jeunes footballeurs, très jeunes footballeurs, sont venus pour la plupart de clubs formateurs qui ont accueilli les 23 champions actuels au tout début de leur carrière. Certains vraiment pour leur premier coup de ballon, comme par exemple le club de Ménival pour Kylian Mbappé. Et ces jeunes footballeurs, ces enfants étaient très très avides d'autographes. Hein. Il y avait beaucoup de cahiers, beaucoup de crayons, beaucoup de stylos. C'était également la chasse aux selfies. On a pu voir sur les images Emmanuel Macron se livrer à des selfies à la chaîne, hein, un peu comme Charlie Chaplin serrait les boulons. Une drôle d'expérience de la vie d'usine face à ces jeunes footballeurs très enthousiastes, très heureux de voir le président de la République et les joueurs de l'équipe de France.
Merci Grégoire Le Callot en direct de l'Élysée. On vous retrouvera évidemment tout au long de la soirée, puisque les Bleus iront ensuite faire la fête, pas très très loin d'ailleurs du Palais de l'Élysée, pas loin non plus de la place de la Concorde, dans le prestigieux palace parisien du Crillon. Mes confrères Stéphane Bitton du site foot123.fr et Xavier Barret sont toujours là, ainsi que Sylvain Kahn. On va poursuivre ce débat sur les conséquences peut-être politiques et économiques de cette victoire des Bleus. Une France qui va mieux, une France qui est heureuse, une France qui est joyeuse. Est-ce que c'est une France qui est attractive, qui peut le devenir? Alors,
imaginez par exemple que dans deux jours, Emmanuel Macron ou son gouvernement annoncent une augmentation de l'électricité, du prix de l'électricité de 20%. Je pense que l'effet Coupe du Monde passerait très vite à la trappe. Non, je crois qu'il y a une euphorie. C'est bien pour la France, on l'a dit tout à l'heure. C'est bien pour le peuple français qui a été meurtri ces derniers mois et ces dernières années. Rappelons quand même que l'attentat de Nice, finalement, c'était il y a deux ans, à un jour près. Donc tout ça c'est bien, tous les moments de se réjouir en fait sont rares. On en profite maintenant qu'il y ait des conséquences politiques et que d'associer Emmanuel Macron à la victoire des Bleus fasse changer d'avis certains et se dire bah tiens la prochaine fois je vais voter pour lui parce que Mbappé ou Pogba ont mis un but. J'y crois pas trop.
Non, c'est sûr. Ouais, moi je voudrais juste rappeler ce qui s'est passé en 98. Effectivement, les Français y ont cru à cette euphorie collective, cet état de grâce. Et aujourd'hui on sait que les plus jeunes, ils avaient envie de revivre cette victoire en Coupe du Monde parce que leurs parents leur en avaient parlé. Mais on peut imaginer que leurs parents leur ont aussi peut-être dit « Attention, c'est du football, le reste de la vie, c'est différent, et notamment la politique, c'est pas ce qu'on peut croire. » Donc ils seront peut-être plus vigilants.
Justement, il y a 20 ans, on avait vanté cette équipe black-blanc-beurre, métissée, une France diverse, et réconciliée, et réunie. Et ensuite, on a quand même, ces dernières années, eu ce sentiment que tout ça, ça s'était un peu retourné contre ceux qui l'avaient... qu'il avait mis en avant. On a vu un sentiment de frustration. Certains, notamment par exemple la communauté maghrébine, a dit que c'était peut-être de l'hypocrisie aussi.
Je pense que là, on était dans un slogan publicitaire. Ça m'a rappelé les phrases de Séguéla. J'ai le privilège de là. J'ai connu les années Mitterrand, génération Mitterrand, la force tranquille. Et finalement, c'était une formule. On le sait très bien. Et personne n'a été dupe. Rien n'a changé pour personne. Alors effectivement, cette équipe était composée de blacks, de blanc et de beurre.
Mais on l'avait très politisé quelque part, ce message.
Oui, on a voulu, je pense que c'est justement, on tombera pas dans le même piège qu'il y a 20 ans, où on a voulu croire que, c'est ce que disait Xavier il y a quelques minutes, nous on l'a vécu, on a bien compris qu'il s'était finalement pas passé grand chose, en tous les cas on n'avait pas
derrière,
inversé la tendance.
Jean-Marie Le Pen, qui 3 ans ou 4 ans après, se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc du coup, en fait, c'est presque l'effet inverse de ce qu'avaient voulu les publicitaires. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est dans du soft. Il y a des éléments indiscutables. Voilà, aujourd'hui, cette équipe de France, effectivement, elle a des origines multiples.
Mais elle est aussi black-blanc beurre, finalement.
En même temps, ils le disent tous.
C'est l'histoire de France.
Oui, mais ils le disent tous, ils sont français. Voilà, ils le disent tous, ils sont français. Et moi, il y a quelque chose qui m'a effectivement frappé, c'est que tous les drapeaux qu'avaient les joueurs, c'était que des drapeaux bleu-blanc-rouge. Il y a eu des époques où on voyait de temps en temps des drapeaux d'autres pays ou d'autres continents.
Dans les tribunes, pas les joueurs.
Les joueurs français, jamais. Dans les clubs, oui. Pas l'équipe de France, effectivement. Non. Et là, ils ont tous ce drapeau bleu-blanc-rouge.
Non, mais on se souvient de matchs au Stade de France, de l'équipe de France.
Mais c'était dans les tribunes.
Mais on est d'accord, c'était dans les tribunes. Justement, cette équipe qui serait moins politisée que celle d'il y a 20 ans, ou dont le message serait peut-être moins politique.
Mais c'est parce que l'époque...
Sylvain Cahn, vous êtes d'accord avec nous ? L'époque a changé ?
Disons, ce qui a changé, y compris dans la manière dont on parle de politique, là, par exemple, ce qu'on dit davantage sur cette équipe, peut-être pas tout le monde, mais certains, y compris dans des débats qui sont vraiment compagnons sur rue dans l'espace public, c'est l'insistance, par exemple, sur la proportion de joueurs sur les 23 bleus qui viennent, un, de l'Île-de-France, et deux, des banlieues ou des quartiers. Voilà. Bon, et ça, évidemment, si on a pu remarquer cela, c'est d'une part parce que c'est vrai.
Oui.
Mais si on le remarque, qu'on le dit, que ça intéresse et que c'est dans le débat, c'est aussi parce que la problématique de la France périphérique est aujourd'hui, dans les années 2010, on va dire, ou 2015-2020, plus importante que la problématique de la France métissée dans les années 90. Vous voyez ça que je veux dire ? Bon, donc, il y a autre chose. Alors, peut-être moins dans le débat franco-français, mais qu'on trouve davantage dans le débat international, c'est, on a pu dire que, parfois comme une blague, dans certains pays africains, que l'équipe de France de football était la sixième équipe d'Afrique du Mondial. Alors, on dit ça pourquoi ? Parce qu'il y a 14 joueurs sur les 20, enfin, je dis 14 si je me trompe pas, sur les 23, qui ont des ascendants, d'accord, de pays, des origines, des ascendants de pays.
Eux revendiquent évidemment.
D'Afrique. Ce qu'on revendique.
Bien sûr.
Pas. C'est-à-dire, eux, ils sont très tranquilles par rapport
évidemment.
À ça, les joueurs. Ils disent,
ils sont français.
Nous, on est comme tout le monde, on est français, on a des parents qui viennent d'ici, de là, des grands-parents qui viennent d'ici, de là. Et c'est effectivement.
Et quand Emmanuel Macron.
Il y a une espèce de syncrétisme. On le voit d'ailleurs, y compris dans la manière de faire la fête. C'est-à-dire, il y a des pas de danse, il y a des rites qui ont été construits et qui sont en train maintenant de se diffuser dans la France entière, dont on nous dit, ah ben oui, ce pas de danse-là, il est.
Enfin, c'est là, c'est l'histoire de notre pays.
Voilà, il est inspiré.
Les vagues d'immigration, rappelez-vous, Coppa venait de Pologne, en tous les cas, c'est aïeux. Et puis Platini, c'était les Italiens.
Exactement.
Zidane, c'était le Maghreb,
l'Algérie. Il y a eu un moment donné, c'était beaucoup les Français venus des Dom-Dom, dont Marius Trésor était le représentant emblématique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe où on peut dire, ah ben tiens, on constate, parce qu'évidemment, ça existe bien avant cette finale, on constate que depuis 20 ans ou 30 ans, il y a une histoire particulière s'agissant des Français qui viennent ou dont les parents ou les grands-parents viennent d'Afrique et en particulier d'Afrique subsaharienne.
Équipe de France qui ressemble à la France et qui gagne et qui va peut-être faire gagner la France, en tout cas donner un peu de morale aux Français. C'est tout le sens de ce débat ce soir en tout cas. Il est 20h50, dans un instant on va aller en Russie pour voir si l'autre grand gagnant de cette Coupe du Monde finalement, c'est pas Vladimir Poutine. 20h50 donc, l'info Emmanuel Grabet.
Plus de 2000 policiers CRS et 500 secouristes mobilisés cet après-midi et ce soir pour sécuriser la foule immense qui s'est massée sur les Champs-Élysées pour acclamer les champions du monde. Des centaines de milliers de personnes le long des Champs-Élysées. Les Bleus sont désormais à l'Élysée, invités par le président Emmanuel Macron qui a d'ailleurs annoncé aujourd'hui que les 23 joueurs, comme en 98, allaient recevoir la Légion d'honneur pour service exceptionnel rendu à la nation. Didier Deschamps, déjà récipiendaire il y a 20 ans, sera promu à un grade plus élevé. Donald Trump sous une pluie de critiques aux États-Unis après son entretien cet après-midi avec Vladimir Poutine. Après des parlementaires démocrates et républicains, l'ancien candidat à la présidentielle John McCain estime ce soir que le face-à-face entre les deux dirigeants est l'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine. Et puis les 450 migrants secourus par Frontex et par l'Italie ce week-end en Méditerranée ont enfin débarqué dans un port de Sicile après avoir été tenus à distance pendant 2 jours par le gouvernement italien. 5 pays européens dont la France ont accepté d'accueillir chacun 50 des personnes secourues.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Des informés évidemment consacrés au retour des Bleus, retour triomphal en France après la victoire en Coupe du Monde. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont rentrés chez eux aujourd'hui. Ce sont les Croates, finalistes malheureux, mais finalement fêtés aussi chez eux à Zagreb, Farid Anouar.
Et oui, Nicolas, vous avez de la chance parce qu'ils viennent tout juste d'arriver sur la place principale de Zagreb. Je ne sais pas si vous entendez les cloches de la cathédrale. C'est un signe, c'est une ovation qu'on leur fait ici, ces joueurs. On vient d'allumer des fumigènes, il y a eu des feux d'artifice. Ils sont arrivés là il y a une minute alors qu'ils ont quand même atterri à 15h30 à Zagreb. Et ils ont mis du temps pour cheminer jusqu'à ce centre-ville. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre l'aéroport et cette place principale. Ils sont attendus par des centaines de milliers de supporters qui sont en train d'agiter là des drapeaux devant moi, qui sont en train de prendre des photos pour que ce moment reste gravé dans leur mémoire, dans leur cœur. Je suis sûre que l'équipe nationale ne s'attendait pas à une telle ferveur, une telle liesse, parce qu'il y a une ambiance de folie depuis ce matin. Les supporters veulent faire une ovation aux Vatrini, aux flamboyants. Alors ils se sont échauffés toute la journée, ils n'ont pas arrêté de chanter des hymnes, des chansons d'amour. Tout le monde a au moins quelque chose de rouge ou blanc sur lui, soit des chaussettes, soit un maillot, soit une casquette, soit des lunettes. Et certains sont vraiment émus quand ils parlent des joueurs. Regardez, j'ai les poils qui se hérissent quand je les vois, me disait tout à l'heure un supporter. Si Luka Modric se retrouverait là face à moi, je ne saurais même pas quoi lui dire. Je pleurerais, me confie un autre. Il y a une vraie ferveur. Depuis ce matin, depuis 8 heures, les plus matinaux sont arrivés pour avoir une place juste devant l'estrade, l'estrade où se trouvent en ce moment les joueurs. Ils ont perdu la finale, mais ils sont quand même vice-champions du monde pour la première fois. Il y a même eu des avions de chasse pour vous dire qu'ils ont fendu le ciel en leur honneur.
Farid Anouar avec les moyens techniques d'Arthur Gerbaud en direct de Zagreb. Ils ont aussi un peu gagné, vous serez d'accord avec moi, les Croates.
C'était la première fois qu'une équipe de l'ex-Yougoslavie arrivait en finale de Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas oublier que les footballeurs croates, ils ne sont pas arrivés en Coupe du Monde en 98. Ils jouaient déjà les Coupes du Monde avant sous le maillot yougoslave. Et ils ont souvent fait des belles performances, mais jamais de finale. Donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire pour la Croatie. Et quelque part, c'était le perdant idéal, j'allais dire, parce que pour eux, c'est quand même un événement. Il est évident que si l'équipe de France était à leur place, il n'y aurait pas les mêmes scènes. Ça, parce que ce serait une désillusion, vu que la France a déjà été championne du monde, et puis surtout qu'elle avait perdu il y a 2 ans déjà une finale. Donc, pour les Croates.
Elle avait perdu en 2006 aussi.
Voilà. Et, alors, il y avait quand même eu une réception en 2006.
Oui, mais.
Il y avait une réception, mais effectivement, avec un goût un peu amer. Là, pour les Croates, c'est quand même une performance d'être allé jusqu'en finale.
Stéphane Bitton.
Oui, c'est un pays de, je crois, 4,5 millions d'habitants, donc c'est quand même une performance exceptionnelle. Et puis, c'est pas non plus une surprise. N'oublions pas que Modric est la tête pensante du Real Madrid et que Rakitic est la tête pensante avec Iniesta mettons de côté Messi pour le coup. Mm-hmm. Du FC Barcelone. Donc cette équipe est quand même composée de joueurs qui font le bonheur des plus grands clubs européens maintenant depuis de nombreuses années. C'était une des équipes qu'on donnait parmi les favoris. Donc finalement, la Croatie s'est retrouvée à sa place en étant finaliste de cette Coupe du Monde.
Si les Croates ont peut-être un peu gagné, quid de Vladimir Poutine? Est-ce que Vladimir Poutine est l'autre champion du monde? Il a réussi son mondial, vous diriez ça, Sylvain Kahn?
De son point de vue à lui, par rapport à ses objectifs, de toute façon, pour juger d'une réussite, il faut toujours voir quels sont les objectifs, en tout cas énoncés par les acteurs. Et là, c'est clair que Vladimir Poutine, l'objectif de Vladimir Poutine n'était pas que l'équipe de football nationale de Russie remporte la Coupe du Monde.
Mais elle a fait de jolis matchs.
Oui, elle en a surpris plus d'un.
Donc déjà, de ce point de vue-là, c'était effectivement une surprise et donc un gain.
Mais sur le plan de l'organisation, ça s'est bien passé.
Évidemment, il s'agissait... Là, on est vraiment dans de l'image, mais l'image, évidemment, ça peut avoir des conséquences concrètes très très importantes en termes d'investissement étranger, en termes d'exportation, en termes de diplomatie.
De redevenir un peu fréquentable aussi, peut-être, de la part de Vladimir Poutine sur la scène internationale.
Oui, parce qu'effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, la Russie est considérée un peu comme un bad boy pour dire les choses de manière très très imagée. Et donc l'un des buts, c'était d'ailleurs également l'un des buts des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en 2014, l'un des buts du régime actuel, c'était de faire un peu oublier que c'est un régime autoritaire, que c'est un pays dans lequel il y a énormément d'inégalités, que c'est un pays qui est un peu impérialiste dans sa région, pas dans le monde, mais dans sa région, vis-à-vis de son étranger proche, vis-à-vis de la Syrie. Et il s'agissait que cette image-là ne disparaisse pas forcément, mais qu'elle soit concurrencée par une image d'une Russie extrêmement sympathique,
accueillante, bienveillante avec les touristes,
et avec un Poutine qui finalement n'apparaisse pas
comme un espèce de grand ordonnateur qui décide de tout. Mmh. Et d'ailleurs, il a été d'une discrétion exemplaire.
Les deux choses
Stéphane
importantes
Bitton et puis Xavier Barré.
Au regard de la communauté internationale, c'est toujours l'organisation. Ça s'est bien passé.
La
les
sécurité.
Matchs ont débuté à l'heure. La sécurité et la beauté, entre guillemets, des stades. La Coupe du Monde s'est déroulée dans des stades magnifiques. Il n'y a eu aucun problème, à ma connaissance, évidemment, au niveau des supporters venus du monde entier. On craignait beaucoup parce qu'il s'était passé des choses à Marseille avec les supporters russes.
Justement,
on
n'en
a pas du tout entendu parler pendant cette Coupe du Monde. Je crois que à la Russie, justement, Vladimir Poutine et son gouvernement ont verrouillé la chose pour que effectivement il n'y ait pas d'incident. Et quand les Russes se penchent sur ce genre de choses, je peux vous dire qu'ils y mettent le prix. Pour avoir assisté à la finale de la Ligue des Champions à Moscou il y a quelques années au stade Loujniki entre Chelsea et Manchester United, sachez qu'il y avait 12 000 policiers autour du stade, quand un PSG Marseille en mobilise 1200.
Ça veut tout dire. Xavier Barré, c'est réussite de Poutine
moi,
quand même
je pense
ou quoi
oui,
en tout cas des Russes.
C'est une grande victoire pour lui, parce qu'aujourd'hui, vous allez dire aux gens « Ah bah oui, mais Poutine, il est méchant, il massacre des gens en Syrie, ou il occupe la moitié de l'Ukraine, enfin un morceau de l'Ukraine. » Les gens vont dire « Oui, mais Poutine, il a fait une magnifique Coupe du Monde. Tous les confrères qui reviennent ont été emballés par l'accueil qu'ils ont reçu. Les
Français qui sont allés assister au match, certains nous disent de la même chose. »
Voilà, même s'ils ont plus été déçus par l'équipe de France, le match de l'équipe, les spectacles de l'équipe de France que par l'accueil qui leur a été réservé là-bas. Donc effectivement, il a réussi son coup, c'est une magnifique opération de communication pour lui, mais bon, après, si on creuse un peu, il y a d'autres choses à voir.
Alors on a vu quand même les Pussy Riot qui sont allés sur la pelouse s'inviter hier pour rappeler qu'il y avait des causes à continuer des combats à continuer de mener.
Voilà, qu'il y avait des oppositions politiques. Oui. Quand bien même, c'est très très difficile, c'est pas vraiment un régime pluraliste, donc c'est un peu compliqué. Mais ceci étant, de la même manière qu'on disait tout à l'heure que pour un président, en l'occurrence français, on ne sait pas combien de temps il va bénéficier de l'effet « mon équipe nationale a gagné la Coupe du Monde », combien de temps ce dont on vient de parler va bénéficier à Vladimir Poutine, on ne peut pas le savoir non plus.
On le saura
pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réussite économique et qu'il a montré que la Russie était un pays extrêmement sérieux pour les investisseurs.
Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin de cette émission spéciale Désinformée consacrée à la Coupe du Monde. Merci Stéphane Bitton, Xavier Barré, Sylvain Kahn de nous avoir éclairé ce soir sur le foot et aussi sur le rayonnement du mondial, sur la politique, l'économie, les relations internationales. Merci à vous trois. Les Informés reviennent bien sûr demain sur France Info.